Notre soirée mémoire de la radio avec tous ces témoignages se poursuit. Nous allons parler de Zigzag 102 tout à l'heure. Nous reparlerons également de Cool Jean Radio. Et puis, ce sera l'occasion de mettre en valeur Horizon FM dans un instant puisque Stéphane arrive au standard d'Attitude.
Sur Attitude, revivez 40 ans de radio FM. 40 ans d'histoire.
Sur Attitude, on se rappelle des premières radios locales 1981-2021. C'est l'occasion de célébrer 40 ans de radio FM. Et c'est Stéphane qui nous rejoint à l'antenne d'Attitude. Bonsoir Stéphane.
Bonsoir Steph, bonsoir Attitude, bonsoir à tous.
Ça fait bien plaisir de t'accueillir, d'autant que tu as connu quelques-unes de ces radios qui ont marqué la FM à Angoulême. On parlera technique tout à l'heure. Je pense à l'une de ces radios installée rue de la Mutualité à Angoulême tout simplement.
18 rue de la Mutualité à Soyaux. Ah, oui, enfin c'était Soyaux.
C'était limite, ah oui d'accord, c'était Soyaux.
C'était sur Soyaux encore, à la limite.
Le studio était installé dans la cave de la maison des propriétaires. On se rappelle de l'adresse des années après, 30 ans après, on s'appelle du numéro de téléphone.
05 45 38 08 04 pour vos dédicaces.
Voilà, sauf qu'à l'époque, déjà, il n'y avait pas le 45 jusqu'en 86-87.
Oui, après oui.
Il n'y avait pas le 05 non plus.
C'est vrai, oui, c'est vrai, pardon.
Quel souvenir tu gardes de cette période complètement folle de toutes ces radios?
Ah, pour moi, ça a été, et c'est encore aujourd'hui, les meilleures années radiophoniques de la bande FM, avec la libération de ces radios, l'arrivée de radios en masse un petit peu partout en France. Et moi qui étais déjà à l'époque passionné de ça, qui dès mes 11 ans commençait à bricoler un petit émetteur pour que tous les voisins écoutent ma radio, ouais, c'était en 1981. Et après, le plaisir d'écouter aussi les autres radios, ce qui se faisait Angoulême un petit peu. Et connaissant Horizon FM, enfin la personne qui gérait cette radio-là étant un radio amateur, et mon papa étant radio amateur, donc j'avais un peu quelques liens. Et un jour, je me suis décidé, j'ai pris ma mobylette et j'y suis allé, j'avais 16 ans. Et je me suis dit, tiens, pourquoi pas faire de la radio? Donc j'ai rencontré Patrick, qui s'occupait de cette radio avec son épouse. Et donc voilà, je me suis dit, bah tiens, on va essayer de faire un petit peu d'animation, on fait la technique, mais aussi on va faire un petit peu d'animation, voir ce que ça donne de parler dans un micro et avoir un peu de relation avec notre département charentais.
Et là, tu as découvert un studio qui était pour l'époque plutôt bien équipé et qui avait également, qui bénéficiait d'un émetteur puissant installé sur un lieu assez élevé du département.
Oui, sur la commune de Mazerolles, juste à côté, à l'Arbre, c'est exactement Puy de Beaumont, c'est une petite ferme dans la campagne du côté de Montembeuf. L'Arbre, voilà, un studio, oui c'est vrai, alors moi je suis arrivé en 86, la radio existait déjà depuis les années 80, Patrick avait démarré même un petit peu avant la libération, l'autorisation avait démarré, donc moi je suis arrivé un petit peu plus tard dans les années 86, c'était octobre 86, et là j'ai découvert un studio exceptionnel. Enfin, moi qui connaissais un peu le matériel, mais du matériel grand public, et là je suis arrivé dans un studio professionnel avec une grosse table de mixage, des gros magnétos à bandes, des platines exceptionnelles, platines cassettes, un studio avec des micros, des lignes téléphoniques, un petit studio de production et tout ça renfermé dans une cave avec des moquettes au mur, tout était super bien à l'époque, hein. C'était très très bien.
Oui, l'acoustique était vraiment parfait, et c'est vrai que quand on passait devant la radio, on se doutait pas qu'un studio, comme beaucoup de radios d'ailleurs à l'époque à Angoulême, qu'un studio était là quelques mètres plus bas et que ça tournait du feu de Dieu, quoi.
Ah oui, c'était une radio qui marchait dû sa couverture de l'émetteur à l'Arbre qui couvrait tout le département, un petit peu du côté du 87 pardon, et du 24. Et c'est vrai que les auditeurs étaient au rendez-vous. Moi, quand je faisais mon émission le mercredi après-midi, il y avait du monde au téléphone, ça passait plutôt bien.
Et puis la radio a cessé ses programmes et Patrick a souhaité stopper l'aventure au printemps 87.
Le 15 mars 87, ça a été une triste nouvelle pour moi, franchement triste, parce que je m'étais pris franchement au jeu de cette radio et qui me plaisait énormément. Le principe de l'animation me plaisait énormément. Et les auditeurs me plaisaient aussi parce qu'on retrouvait souvent beaucoup les mêmes auditeurs à tous les mercredis, enfin à chaque émission. Et c'est vrai que le jour où Patrick, sur l'antenne, a décidé de mettre un petit message comme quoi les émissions cesseraient le 15 mars 1987, j'étais quand même très triste et j'ai versé quelques larmes, malheureusement. Quand on est jeune et qu'on a une passion telle que la radio, c'est vrai que c'est triste.
87, le printemps 87, c'est une période un peu particulière où Renaissance, si je ne m'abuse, commence à basculer Chic FM, Radio Marguerite passe programme Europe 2 et donc Horizon FM arrête ses programmes. Le matériel et le site d'émission est cédé.
C'est-à-dire que à l'époque, nous avions nos amis de Radio Cougeant. Alors, je pense que tu l'as déjà dit, nous avions à Cougeant deux radios, une officielle et une non officielle. Et la non-officielle qui était tenue par Marseille Bureau suite à, bon, à des histoires que tu as dû raconter à l'antenne.
Exact.
J'en ai entendu une petite partie. Voilà, donc Marseille, pour légaliser sa radio qui était un peu, entre guillemets, pirate, a décidé de reprendre l'association de radiodiffusion charentaise, qui était le vrai nom de l'association, avec un programme Horizon FM. Et donc Marseille a repris avec plusieurs partenaires, cette radio a repris association, donc... Et la fréquence Horizon FM 96.9 est passée Radio Courgeant 96.9 à l'époque.
Absolument, donc, ça s'est passé un samedi matin. Les programmes se sont arrêtés sur le 101 MHz ou 101,5. Un temps de blanc, tout le monde se demandait ce qui se passait. Et réapparition en fin d'après-midi sur le 96.9, c'était absolument magique.
Ah oui, c'était magique. Alors moi, je n'étais pas là pour cette bascule-là, trop triste de l'arrêt d'Horizon FM et pas encore convenu que les animateurs d'Horizon FM pouvaient basculer, pouvaient rester à Radio Courgeant. Ça a été fait à peu près 15 jours, 3 semaines, un mois après. Mais cette bascule s'est faite bien comme il faut, tranquillement. Les studios ont déménagé, tout a été démonté de la rue de la Mutualité pour venir à Courgeant dans le petit frigo, comme on pourrait dire. Et voilà, donc une réunion s'est faite. Patrick avait informé tous les animateurs d'Horizon FM qu'une réunion se tenait à Courgeant et que les anciens animateurs d'Horizon FM pouvaient s'y rendre pour savoir s'ils souhaitaient continuer à faire de la radio à Courgeant. Et moi, j'en faisais partie. Et de ce fait, j'ai continué à faire de la radio à Courgeant.
Et puis alors, tu as été l'un de ceux qui ont participé, ça c'est important et on abordera tout à l'heure la technique, mais le montage des antennes du nouveau pylône
ah oui,
de Marcel.
Oui, oui. Alors, dans 1989, voilà, Marcel avec ses partenaires se sont un petit peu brouillés, il y a eu de l'embrouille, de l'eau dans le gaz qu'on pourrait dire. Alors, Marcel avait une partie, chacun avait une partie de la radio, c'est-à-dire que Marcel, lui, avait toute la partie studio, matériel, table de mixage et tout ça, et après, les autres partenaires avaient l'émetteur. Et donc, il y a eu quelques histoires, et il a fallu, bien sûr, se dépatouiller de tout ça. Et le pylône qui était à Courgeant à l'époque, le pylône de 40 mètres, a été démonté pour être remonté à l'arbre, à Mazerolles, tel qu'il est aujourd'hui, au même emplacement. Et de ce fait-là, avec notre ami Momo, nous avons monté les antennes à 44 mètres pour que Radio Courgeant puisse continuer à diffuser ses émissions. Ça, c'était en 1989. Et merci à Tiffen et à toi, Steph, pour m'avoir retrouvé cette belle photo où j'étais sur le pylône. Ça m'a fait un grand souvenir et une grande émotion.
Je suppose que ce moment a été évidemment très, très fort, hein, puisque après l'entrée dans les studios, tu passais dans les coulisses et là, la technique prenait vraiment sa part entière.
Oui, la technique prenait... Alors moi, j'étais déjà, comme je disais tout à l'heure, j'étais déjà intéressé par la technique depuis mon plus jeune âge, du fait que mon papa pratiquait électronique et radioamateurisme, donc je baignais dedans depuis des années déjà. Et donc, de ce fait-là, la technique émetteur m'intéressait bien sûr particulièrement, le son m'intéressait particulièrement, et c'est vrai que je me suis proposé avec Momo de monter les antennes, on a fait ça, on a monté, et là est parti le site de diffusion de Radio Courgeant avec ce nouveau site de diffusion qui est à l'arbre actuellement toujours officiel.
Et donc, il a commencé à continuer, mais même dupliquer la diffusion, la puissance de diffusion a été dupliquée et là ça a arrosé bien
oui.
Bien loin autour de l'arbre
oui,
de la Charente.
C'est, alors à savoir que sur le Puy de Beaumont où était l'ancien émetteur d'Horizon FM et où a repris Radio Courgeant, il y avait un système de diffusion avec un émetteur de 500 watts et 8 dipôles. Et là, on est passé sur un émetteur de 4 dipôles et avec un émetteur de 2 kilowatts à l'époque. Et là, ça commençait à faire du bruit parce que ça a commencé à arroser un peu loin.
C'est ça.
Et c'est pour cela que le CSA, une époque, deux ans après, 1992, tu me diras, tu rappelleras les dates.
C'est ça.
1992, le CSA a dit, monsieur Bureau, il va falloir commencer un petit peu à baisser parce que ça arrose beaucoup trop loin. C'est vrai que la hauteur du site, les 345 mètres d'altitude, plus que pylône, plus la puissance et le gain des antennes faisait que ça allait très, très, très loin. Je me souviens, moi, quand je commençais à faire du déplacement en 1992, juste avant 92, moi, j'entendais Radio Courgeant presque jusqu'à Cahors. Quoi. Attention, hein, ça passait, ou un Brive-la-Gaillarde, ça passait, on avait Radio Courgeant encore, hein, ça marchait très très fort.
C'est vrai que pour l'époque, c'était plutôt incroyable. Donc, tu as continué, toi, après, à partir de 87, à faire quelques émissions. Tu y allais quoi, en mobylette, c'est ça?
Alors oui, moi, tant que j'avais pas mon permis en 87, oui, j'avais pas encore mon permis, donc été comme hiver, le sac avec les vinyles et les maxi 45 tours dans le dos, et on prenait la mobylette le mercredi après-midi, samedi soir, pour lui des clubs, une partie pendant un an et demi, deux ans à peu près. Oui, la mobylette, on partait de Ruelle et on allait jusqu'à Courgeant, traverser Brie, Jaune et tout ça, qui pleuve, qui vente, c'était pas grave. On allait faire des radios, on était en rendez-vous avec nos auditeurs, et franchement, enfin moi j'ai toujours adoré. J'ai toujours été là pour mes auditeurs et aussi pour mon plaisir, parce que c'est un plaisir aussi. Hein, c'est un plaisir pour tout le monde que l'auditeur écoute la musique, que ça lui fasse plaisir, mais aussi pour moi qui était passionné d'animation, de technique. Voilà, la voix portée par les ondes, c'est extraordinaire.
Et puis dans les années 90, nouvelle aventure pour toi, puisque un responsable d'Angoulême souhaite installer le programme Chéri FM. Radio Bélusine revoit, j'allais dire, le jour à Angoulême, puisque c'est oui. La radio avait émis dans les débuts des années 80 quelques temps. La radio s'installe donc de nouveau rue Froide, je crois, à Angoulême.
Oui, rue Froide à Angoulême.
Et prend le nom du programme Chéri FM avec un studio local et une équipe d'animateurs. Et là, il a fallu tout monter.
Ben oui, donc là, donc rue Froide à Angoulême, Chéri FM, donc Radio Mélusine, programme Chéri FM, avec un studio, alors un petit peu moins important qu'à l'époque de celui d'Horizon et tout. Hein, le départ, il fallait trouver des moyens financiers pour monter le studio. Donc une petite console Amix, deux platines, un faisceau, trois cassettes, voilà, c'était ça. Il y avait un lecteur compact disque, je crois, à l'époque, un lecteur de CD, et l'émetteur qui était à Saint-Saturnin. Donc là, on est parti à faire un petit peu de montage, d'assemblage, et après faire d'animation le vendredi soir, la boîte à lettres émission où les gens passaient des petits messages, enfin, les auditeurs passaient des petits messages à leur famille de l'autre côté du transistor. C'était quand même bien agréable. Et cela a duré à peu près un an, parce qu'après, il a fallu partir au service militaire.
Et oui. Et puis, bah, tu as retrouvé la radio début 2000, je crois, en 2000, ou 99 pour être précis. Donc 99, à l'occasion d'une fête de la musique, où tu nous as permis, moi j'étais pas encore de retour comme animateur, mais j'ai participé à une opération fête de la musique depuis le Café Chaud pour Quartier Orange, oui. Et tu nous avais installé la retransmission.
Oui, à l'époque, oui, c'était avec les moyens du bord. On avait fait un petit studio déporté. Alors, on s'était rencontrés. Enfin, moi, j'étais de retour donc à Quartier Orange à l'époque, suite à des petits échos que je m'amusais à faire des petites émissions, de la petite radio et tout. Donc voilà, donc j'étais arrivé chez Quartier Orange et j'avais proposé des transmissions pour faire du studio déporté. On avait fait ça, oui, une belle soirée au Café Chaud avec un studio déporté, un petit émetteur pour envoyer donc le signal. À l'époque, il y avait Internet commençait juste à exister, donc on n'avait pas de liaison telle que l'on a aujourd'hui, donc très facile à faire une liaison. Et donc, il fallait se débrouiller pour faire un petit pont entre le studio déporté et le studio fixe qui était rue de Genève. Et donc là, on s'était rencontrés et on avait fait nos premières émissions comme ça.
Nouvelle aventure. Malheureusement, décembre 99, la tempête que l'on connaît détruit certains émetteurs. C'était le cas pour Quartier Orange, où le site a été endommagé, plus possibilité d'émettre. Ça a duré un bon bout de temps. Et en 2002, c'est toi qui nous a monté les antennes et toute l'installation technique du côté du stade d'Angoulême.
Oui, du stade d'Angoulême. Alors, entre-temps, on avait fait une petite installation de sauvegarde pour dire on va continuer à émettre. C'est-à-dire, il y avait un petit dipôle à Angoulême, où j'avais remis un petit dipôle. Je crois que non, il y en avait un peut-être. Donc, on émettait depuis les studios avec une petite puissance qui permettait de couvrir Angoulême et tout. Parce que oui, le site de Ruelle, au Puy de Nanteuil, avait été carrément détruit, et le propriétaire ne voulait pas une réinstallation d'un nouveau pylône et tout. Donc, il a bien fallu trouver une solution. Et après la solution, il a fallu lancer des gens qu'on connaissait, savoir où on pouvait installer une antenne. Il y avait eu des messages à l'antenne de Quartier Orange et tout. Et après, c'est la mairie d'Angoulême qui avait été contactée pour nous aider un petit peu à trouver. Là, le stade de Chanzy est arrivé. Et nous avons eu la possibilité d'installer les nouvelles antennes de Quartier Orange là-bas. Et tout s'est bien passé. On a installé 4 dipôles et tout, dans une bonne ambiance, avec une bonne équipe. Donc c'était assez sympathique. Je crois même, si je me souviens sont bons, c'est toi qui avais appuyé sur le bouton pour démarrer l'émetteur et que le disjoncteur était un peu sous-dimensionné, ça avait disjoncté, on avait été obligé de réenclencher et tout.
Effectivement, tout à fait. Et puis l'une des anecdotes, c'est que je vous avais accompagné sur le toit et je ne suis monté qu'une seule fois.
Oui, tout à fait, oui.
Pour régler des antennes et je suis descendu sur les fesses et je ne suis jamais remonté depuis.
Ouais, assez compliqué, voilà. Oui, parce qu'il fallait réinstaller le faisceau, c'est-à-dire le signal qui part du studio qui arrive à l'émetteur. Donc, c'est pas un petit faisceau. Que transite le signal et il fallait repointer pour que toutes les deux petites antennes soient visibles les unes aux autres. Voilà.
Absolument. Encore une nouvelle aventure à Angoulême. Aujourd'hui, tu en as fait ton métier. C'est complètement incroyable, puisque d'une passion et de la transmission également qu'a pu te donner ton papa, tu en as fait ton quotidien.
Oui, parce qu'au départ, quand j'étais gamin, à l'époque où j'ai commencé à faire mes premiers petits émetteurs, j'avais 11 ans, 12 ans, et je disais, quand je passais devant les gros pylônes de chez TDF, le diffuseur d'origine, enfin l'ORTF à l'époque, et après qui est devenu TDF, j'ai toujours rêvé de dire un jour, j'aimerais bien travailler à monter des antennes, faire des émetteurs de radio, de télé et tout. Et j'ai eu la possibilité, donc à partir de 2007, suite à une annonce d'embauche, enfin une grande société de diffusion qui cherchait un technicien sur le Poitou-Charentes. Je dis, tiens, alors je travaillais déjà dans l'audiovisuel, mais côté studio et tout, enfin dire matériel, et je me suis dit, pourquoi pas basculer à l'âge de 37 ans, même 37 ans, de dire, mon rêve, il va peut-être se concrétiser maintenant, de faire de la diffusion radio, FM, TNT. Et donc j'ai postulé, et ça faisait un an et demi qu'ils cherchaient quelqu'un, et j'ai été pris deux mois après deux entretiens sur Paris et Toulouse, j'ai été pris, et cela fait maintenant un peu plus de 14 ans que je vis ma passion de la radio et de aujourd'hui en plus de la télévision et bien d'autres domaines autour du numérique de ces deux domaines.
Alors tu connais forcément parfaitement les coulisses techniques des radios depuis les années 80. On est aujourd'hui à des années-lumière des systèmes de fonctionnement d'origine où tout était matériel, tout était mécanique,
avec. Oui, ça veut dire que. Avant, on avait l'humain derrière ces consoles, ces boutons, ces platines, ils géraient de A jusqu'à Z. Aujourd'hui, même depuis, on va dire, à peu près une douzaine d'années, facilement, tout est numérisé. Tout est numérique, tout est pré-programmé, surtout sur les grosses radios qui ont évolué très très vite parce qu'elles ont des moyens financiers, pas comme les radios associatives ou les radios un petit peu de moyenne. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, la numérisation des studios, la numérisation aussi du matériel d'émission, parce qu'aujourd'hui on fait des transmissions numériques, les traitements sont numériques, les émetteurs sont des modulateurs numériques. Voilà, on est passé à l'ère numérique, même si encore le son reste encore analogique et en audio, en finalité, dans l'autoradio, dans le poste de radio ou dans les écouteurs. Mais les transmissions, le départ du studio, voilà, c'est tout numérisé aujourd'hui. On peut faire presque une petite radio avec un ordinateur. Hein. On s'amuse avec une petite radio, un ordinateur. Alors, après, c'est vrai que nous, comme toi, comme moi, Stéphane, qui avons connu les époques des années 80, moi c'est pas ma tasse de thé, comme je dirais. Je dis moi la grosse console, les lecteurs, les platines et tout. Oui, voilà. Là, mais c'est notre jeunesse. Après aujourd'hui, dans les studios, quand je vais dans les studios du groupe dans lequel je travaille et que je vois les jeunes, eux, ils ont la souris, clic 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 clic. Voilà. Bon, c'est comme ça, c'est leur évolution. Ils ont grandi là-dedans. C'est vrai que moi, quand je vais dans un studio, je m'amuse encore. Hein, attention, hein, mais bon, ce sont que des écrans. Que des écrans. Donc voilà, après, c'est l'évolution numérique, c'est comme ça.
Il faut dire qu'à partir de, on va dire, la fin des années 90, l'informatique, les ordis ont totalement changé le quotidien des animateurs et le fonctionnement des studios. Les bandes de nuit, les bandes magnétiques ont été remplacées par des programmes pilotés par l'informatique. Et puis, oui. Ça a continué en journée et ça se développe de plus en plus, évidemment.
Oui, mais comme les grandes radios, hein, dès la fin des années 90, 2000, déjà, connaissant le groupe auquel j'appartiens, Energy, travaillait déjà avec des ordinateurs Macintosh à la fin des années 90, et toute la programmation se faisait par PC et tout. Hein. L'ordinateur gérait la playlist, gérait tout. Il y avait encore du manuel pour les émissions en direct, les cartouchiers et tout ça, mais tout ce qui était programmation musicale se faisait par PC, etc. Par PC, quoi. La diffusion se faisait pas encore trop par PC, mais toute la gestion musicale se faisait par des programmes informatiques.
Et puis aujourd'hui, une attention toute particulière est apportée par le matériel de traitement de son, notamment les réseaux nationaux travaillent avec chacun son propre son, quasiment.
Ah oui, tout à fait. Ça, c'est un peu. Le son aujourd'hui, quand vous écoutez une radio, la tonalité, plus aiguë, moins aiguë, plus de basse, moins de basse, plus de médium, plus de présence, chaque radio a sa tonalité de son. Et c'est un petit secret, on va dire. Hein. Les presets sont protégés par des mots de passe et tout. C'est la tambouille, c'est le boubibouga de chaque radio, on va dire. Donc c'est la recette d'Astérix et Gaulois, c'est ça le traitement de son. Aujourd'hui, le son sur une radio FM, c'est quelque chose de très important. Quand vous, moi, je, ayant l'habitude de travailler aussi pour des petites radios associatives, des grosses radios associatives, le son a une importance. On voit sur Attitude, le son, c'est quand même une importance quand on écoute Attitude, une radio associative, mais avec un très très bon son. Après, quand on écoute des petites radios, voilà, associatives avec des moins bons sons, bah, il y a moins d'attrait sur ces radios-là.
Oui, c'est vrai.
On le sait, hein. La tonalité se sert beaucoup l'auditeur. La musique, le contenu et le contenant. Il n'y a pas que le contenu, il y a aussi le contenant. Donc voilà, il y a le verre et ce qu'il y a dans le verre. Donc il ne faut pas oublier que la tonalité, les traitements de son sont très importants. Aujourd'hui, ils sont très à la pointe. Hein. L'évolution des traitements de son dans les années 85-86 à aujourd'hui, ça aussi, c'est énorme. Quand vous preniez, on voit beaucoup hein, les traitements de son de Radio Énergie, parce que je parle de ça parce qu'il y a beaucoup de vidéos là-dessus. Vous aviez une grande pièce, vous aviez des appareils pour faire le son énergie à l'époque. Aujourd'hui, vous avez trois appareils pour faire le même son, quoi. Et aujourd'hui, même pire que ça, un son un peu plus fort, un peu plus compensé, un peu plus dense. Voilà. Après, c'est ce qu'on veut, quoi, tout à fait. Donc voilà, l'évolution technologique des radios aujourd'hui, c'est beaucoup d'informatique, c'est beaucoup de numérisation, c'est autre chose. C'est plus la même radio. Après, je suis toujours autant passionné, mais je suis passionné par voilà, par le côté animation, technique, oui aussi. Mais c'est le fait extraordinaire de pouvoir porter une onde et que n'importe où qu'on aille avec un petit poste de radio, on puisse vous écouter, qu'on puisse discuter, enfin écouter un disque, une dédicace, une information, c'est quand même extraordinaire.
C'est complètement magique. Bah écoute, merci beaucoup Stéphane de ce témoignage et on va continuer tout au long de la soirée d'entendre d'autres animateurs qui ont participé à ces belles années et surtout à ces radios aujourd'hui devenues légendaires. Merci à toi.
Merci à vous et bonne écoute et soyez fidèles à l'Attitude, une très bonne radio avec un très bon son, très bons animateurs, surtout soyez fidèles. Merci.
Merci Stéphane.